Puis-je me permettre de vous préparer des spaghettis à l'italiana per tutti?
La bonne idée.
Des spaghettis al pesto.
Thank you.
Ah, parce que les pâtes chez nous, ça se mange. Al dente.
Oui, oui, c'est vrai, j'ai pris des lasagnes.
Ce soir, le brigando, il mangera la carte.
Bene, va bene, c'est toi les patrons, eh?
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? À la carte. Oui. Eh, hey, Joe! Bandito dit qu'il veut des spaghetti speciali. Avec des grosses boulettes de bœuf.
Et juste, Richard. Si, non.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenuti, bienvenue dans le goût du monde. Si je vous dis tagliatelle, cacio e pepe, aglio e olio, spaghetti, macaroni, ravioli, vous me répondez?
Pasta,
bien sûr.
Pasta.
L'Italie à manger au plus simple, au plus juste, au plus savoureux. Crémeux, onctueux, réconfortante, enveloppante, équilibrée, cette pasta. Allez, on peut l'avouer, ici, tous, on aime. Même, on adore les pâtes. Où que l'on soit, Addis Abeba, Abidjan, Dakar, New York, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de midi à mezzanotte, en spaghetti au petit déjeuner, la pasta, c'est juste tellement, 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 tellement bon. Un bonheur dont on voulait partager avec vous tout plein de secrets, tout plein d'histoires, grâce à notre invitée du jour. Bonjour Laura.
Buongiorno.
Laura Zavan, italienne, cuisinière, auteure de plusieurs livres, My Little Italy, de balades gourmandes en Italie également, des recettes cultes de Venise, chez Marabout et chez Mango, indépendamment des livres des uns et des autres. Venise, où vous nous aviez emmené d'ailleurs, c'est peut-être... Là aussi qu'est née cette histoire de pâtes, Laura, de Venise. Nous n'avions presque pas parlé des pâtes, des bigoli. Et puis de fil en sauce, je vous ai proposé une spéciale pasta pour expliquer, raconter, déguster l'un des plats les plus connus et savourés au monde. Et ce, depuis quelques 5 ou 6 siècles maintenant. Et encore, si on prend la portion un peu courte de l'histoire. Laura, un mot de vous peut-être pour commencer. Racontez-nous votre première pâte.
Bah, dans mon souvenir, les premières pâtes qui m'ont vraiment suivie jusqu'aujourd'hui, parce que voilà, c'est ce souvenir que je recherche à chaque fois, c'est les pâtes de ma grand-tante, Vige. Elle faisait des pâtes, elle était de Reggio Emilia, donc la patrie des pâtes, avec Bologne. Et c'était des pâtes farcies, donc des tortelli. Des tortelli, parce que Reggio Emilia, on les appelle comme ça. C'est des ravioli avec les herbes ou avec les potirons, les potimarrons, avec un peu de mostarda, avec un peu d'amaretto. Voilà, c'est vraiment les pâtes dont je m'en souviens le plus. Après, bien sûr, il y avait aussi les cappelletti, les tagliatelle.
Il va falloir qu'on s'entraîne un petit peu hein, pour savoir lesquelles sont les longues, lesquelles sont les courtes, lesquelles sont rondes. Hein, on va décrire un petit peu parce qu'on va s'y perdre. Sinon, racontez-nous aussi, s'il vous plaît, Laura, quel est selon vous le meilleur moment pour manger des pâtes? J'ai un peu une idée de la réponse, mais bon, je tente la question quand même.
Bon, il n'y a pas de meilleur moment. Je pense que tous les moments sont bons, toutes les excuses sont bonnes pour manger des pâtes. C'est surtout un plat convivial qu'on aime partager, mais aussi pour se faire plaisir quand on est tout seul. Hein, voilà.
Faut pas... C'est un peu un plat consolant quand même quand on est...
Absolument. Non, non, mais il n'y a rien de mieux qu'un bon plat de pâtes. Voilà, et ça peut se faire avec des ingrédients très simples, sauf qu'ils doivent être très bons, ces ingrédients.
Pour que les pâtes soient vraiment bonnes, ouais, on prend ne serait-ce qu'un peu d'ail, un peu d'huile d'olive. C'est quoi la pâte la plus simple?
Ben, ça peut être des spaghettis al pomodoro, par exemple, à la sauce tomate. Mais voilà, il faut rechercher vraiment la qualité des pâtes. Et après, la bonne huile d'olive, la bonne tomate et le basilic. Voilà, c'est-à-dire un plat, ça peut être un plat banal s'il est fait avec des ingrédients qui n'ont pas de goût. Et ça peut être un super plat quand il est fait avec des bons ingrédients, de qualité, qui ont du goût. Et après, il y a un peu de maîtrise, mais ça, on apprend. Voilà. En regardant un Italien faire les pâtes, on apprend, c'est sûr.
On s'imbibe, on s'imprègne,
ouais,
on apprend. Je voudrais savoir un petit peu d'où viennent ces pâtes. Vous ne pouvez pas me répondre d'Italie, bien sûr.
Alors, les pâtes, il faut déjà dire que la légende de Marco Polo, c'est vraiment une légende qui a été créée par les marketing américains vers les années 1930. Ils avaient besoin de créer un mythe, donc ils avaient besoin d'un personnage, donc ils ont parlé de Marco Polo. Mais les pâtes existaient bien avant, et on a des témoignages en Sicile, parce que la Sicile était colonie arabe pendant plus de 2 siècles, entre les 900 jusqu'à 11e, 12e siècle. Et donc, voilà, c'est un géographe arabe, Idris, qui parlait des pâtes, milieu du XIIe siècle, à Palerme, près de Palerme, il y avait comme une industrie de pâtes. Et là, ils exportaient. Ils disaient qu'il y avait des bateaux pleins qui partaient en Méditerranée. Et donc, c'est à partir de là qu'on comprend que les pâtes étaient bien là avant Marco Polo.
Mais des pâtes, du coup, un peu...
séchées. Alors, parce que c'est ça, les pâtes fraîches, elles existaient déjà. On a des témoignages dans la Rome antique. Apicius, il décrivait donc les lagane, que c'est les lasagnes. Mais c'est des pâtes fraîches.
D'accord,
donc,
large,
cuites,
des bandes, en fait.
Des bandes de pâtes, mais fraîches. Donc, elles étaient faites et mangées. La difficulté, c'était de les conserver. Donc, pour les voyages, et donc, elles devaient être séchées. Donc, les bassins des pâtes, c'est vraiment les bassins méditerranéens. C'est là d'où elles viennent, les bassins méditerranéens orientaux arabes. Et après, elles sont arrivées en Sicile.
D'accord. Est-ce qu'on a un croisement réel entre la transformation du blé, qui est devenu couscous en Tunisie, dans le Maghreb, dans les pays berbères? On a eu le couscous pour cette transformation du blé, séché lui aussi, mais devenu pâte, arrivé en Sicile.
Devenu pâte,
vermicelle, il y a peut-être une vermicelle entre les deux?
Oui, de vermicelle, oui, absolument, c'était la forme des premières pâtes. Et les premières pâtes, on les appelait itria. Et en effet, dans les puits, par exemple, on a des pâtes qu'on appelle encore, par exemple, la pasta chichi, c'est chicheri et tria. Donc, c'est un nom qui est resté.
Ah, chichi, ça c'est...
pois chiche, pardon. Chiche, ouais. Et donc, oui, elles arrivent en Sicile. Et à Sicile, elles trouvent une terre de prédilection parce que les blés, ils les cultivaient. Donc, c'était vraiment un grenier à... Donc, ils produisaient énormément de blé avec les pouilles. Et voilà, et après, elles sont exportées. Donc, Gênes, après, devient aussi... il y avait des usines des pâtes, carrément.
D'accord, ensuite, elles gagnent le Nord et tout ça. C'est intéressant.
Nord,
c'est... Comment est-ce qu'ils ont compris la méthode pour faire sécher les pâtes? Est-ce que c'était quelque chose de compliqué à trouver? Est-ce que vous savez...
Alors, c'est les climats, d'abord. C'est surtout, en effet, les villes qui sont à côté de la mer, parce qu'il y a un microclimat qui favorise donc les séchages des pâtes. Et donc, on voit voilà, que c'est en Sicile, à Palerme, après à Gênes, où il y a vraiment les endroits privilégiés pour pouvoir sécher les pâtes.
Dans ces usines et ces fabriques, comment est-ce qu'on appelle les fabriques dans lesquelles on fait des pâtes ?
Les pastifiches.
Alors c'est intéressant aussi, à partir du moment où on a séché les pâtes, on a pu les transporter et elles ont pu voyager. Et du coup, en voyageant, elles ont été transportées dans les valises des Italiens qui ont ensuite emporté ce pan comestible de leur culture à travers le monde. C'est pour ça qu'on va retrouver ces pâtes en Amérique, à New York,
oui,
en Amérique du
sûr.
Sud,
ouais.
Puis pour d'autres raisons en Afrique, en Somalie, en Australie, en Algérie, en Tunisie et en Érythrée. Je vous propose d'écouter Tsegay Yeman, il est le chef érythréen du restaurant Massawa, qui est à Paris, dans le 10e arrondissement.
En Érythrée, dans tous les restos, on fait des spaghettis, des lasagnes et des pizzas aussi, et des pastas al forno. C'est des pâtes, des macaronis au four. Oui, on fait des pâtes et puis après, on fait soit des pâtes comme les spaghettis et macaronis, et soit au four, les pastas al forno. Et la lasagne, la même chose, on fait au four aussi.
Donc on peut manger et la lasagne et l'injera.
Voilà, dans beaucoup de restos en Érythrée, il y a l'injera d'un côté, il y a des pâtes de l'autre côté.
Et l'injera étant cette galette faite avec de la farine de teff, c'est quand même étonnant d'avoir ce plat de pâtes al forno et un injera à côté. Donc ça a été le début d'une grande émigration des pâtes et d'un grand amour pour les pâtes aussi à travers le monde. Cette histoire-là.
Ah oui, absolument. Mais je pense que c'était à cause aussi de Mussolini qui avait envahi l'Érythrée et la Somalie.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça. Oui, tout à fait. Oui, dans les raisons politiques et de cette migration. Ouais. Dans les pâtes, alors vous parliez tout de suite, on est vraiment dans le sud, dans le départ et la naissance des pâtes.
Absolument.
Sicile.
On est dans la Sicile.
On remonte vers Naples, peut-être un peu.
Et après, voilà. C'est-à-dire que, donc, on a vu que chez les Romains, il y avait des pâtes, mais ils étaient, on peut dire, un aliment comme des autres aliments. Donc, ils ont pas pris les dessus. Mais c'est au Moyen-Âge que ce sont vraiment la production est devenue de plus en plus importante, parce qu'il y a eu des technologies aussi qui ont permis voilà, une production plus importante. On commence à faire des formes différentes. Il y a la création des raviolis, par exemple. Les raviolis, avant, les raviolis, c'était que la farce. Donc, ils s'appelaient tortelli. Donc, les tortelli, c'est un mélange entre la tourte et les pâtes. Il y avait beaucoup de tourtes salées et donc les pâtes deviennent ravioli, tortelli, c'est-à-dire des petites pâtes farcies, comme des petites tourtes.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a des témoignages de la mi-16e siècle. Donc, ça prend de plus en plus d'ampleur, les pâtes farcies. Mais la vraie révolution, ça s'est fait à Naples, début du XVIIe siècle. Nous voyons que c'est surtout, voilà, souvent, c'est des causes économiques et technologiques en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait une pénurie de viande, les gens avaient faim. Et donc, il fallait vraiment donner quelque chose à manger de plus consistant. Et aussi, la technologie va avec. Donc, il y a vraiment des laboratoires, des technologies qui font aussi que les pâtes deviennent un plat populaire. Avant, elles étaient pour des classes aisées, parce qu'elles étaient faites à la main, donc ça coûtait beaucoup plus cher. Et avec la technologie, on arrive à avoir des pâtes qui coûtent moins cher, parce qu'il y a des machines. Il y a les trafiles, donc les pâtes, elles sont extrudées.
Extrudées, ça veut dire qu'elles passent par un petit tamis, en fait?
Non, c'est comme un pressoir.
D'accord.
Et donc, elles ont des formes différentes. Et grâce à ça, elles peuvent nourrir la population. Et elles sont élues vraiment, en effet, on va les appeler les macaronari. Bon, déjà, en Sicile, on appelle les peuples siciliens macaronari, à Grasse, voilà, parce qu'ils produisent les pâtes. Et après, c'est à Naples qu'on les appelle les macaronari, parce qu'ils mangent macaroni. Avant, ils étaient des mangiafoglie, parce qu'ils mangeaient beaucoup de choux. C'était l'aliment le plus répandu.
Donc, les mangefeuilles.
Les mangefeuilles, voilà. Et maintenant, ils deviennent les mangiamacaroni. Et donc, c'est vraiment au XVIIe siècle que ça prend une ampleur qu'il n'y avait pas eu auparavant. Et petit à petit, après, il y a l'introduction de la tomate. Et ça, c'est un autre voyage.
Ah, mais voilà. Ça, c'est une sacrée rencontre.
Et ça, c'est intéressant de voir comme un plat, c'est-à-dire un aliment qui vient de Méditerranée, côté arabe, il arrive en Sicile. Et c'est là qu'après il voyage, il va à Naples. Et après, avec la tomate, ça devient un plat italien. Mais c'est fait d'influence qui vient de l'extérieur. Parce que la tomate, on sait bien qu'elle vient de l'Amérique, de la découverte de l'Amérique. Il a fallu presque un siècle pour qu'elle arrive chez nous, à travers les Espagnols. Un autre siècle pour qu'elle soit acceptée comme aliment à manger, parce que c'était une plante ornementale avant.
On s'en méfiait pas mal.
Voilà, on s'en méfiait. Et traduite vraiment en sauce tomate, on a des témoignages du 18e siècle, mais c'est le long du 19e siècle qu'elle devient vraiment le plat qui est consommé avec la sauce tomate. Donc il a fallu combien de siècles ? 4 siècles.
Donc on ne se vexera pas si vous êtes italien et que vous nous écoutez. Oui, il faut assumer. Les aliments ont voyagé,
voilà,
avant d'arriver.
Voilà.
Donc se sont rencontrés.
Exactement.
Pour pouvoir,
c'est
ensuite
un mélange.
Créer une signature du goût italien, ouais, et de la culture italienne. Vous avez dit qu'on avait faim à Naples. Et ça, c'est vraiment une dimension très très importante de la pâte. Et notamment dans le fait que d'accompagnement, peut-être elle est devenue un plat, parce que justement, elle est nourrissant comme plat. Quelle est sa place dans les repas?
Oui, à la, oui, parce qu'en effet, jusqu'au Moyen-Âge, elle était un accompagnement, comme on peut la trouver encore en Allemagne, en France, on peut encore la proposer comme accompagnement.
Ah bon, vous voyez ça en France, vous?
De temps en temps, ça arrive dans des restaurants pas italiens, voilà. On peut encore trouver ça. Mais donc, voilà, on va pas se surprendre, dans le sens que c'était, au début, elle était proposée comme accompagnement. Et après, donc c'est à partir donc de Naples, du 17e siècle, qu'elle prend la place comme plat complet. C'est un plat. C'est un plat, et chez nous, c'est un premier plat. C'est-à-dire qu'on a, si on fait vraiment les repas classiques, on a l'entrée, il primo piatto, que c'est donc c'est les pâtes, les riz et compagnie. Et le secondo piatto, le deuxième plat, c'est les plats de résistance, donc la viande, les poissons, etc.
Donc, on peut prendre des pâtes en primo piatto, donc comme,
exact,
une entrée, comme nous, on appellerait une,
voilà,
entrée.
Oui.
Sauf que
nous,
voilà.
On l'appelle pas entrée, on l'appelle primo.
En
mais
premier plat, ça... et ensuite manger un beefsteak et des légumes.
Oui, c'est ça.
D'accord. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de manières de faire des pâtes. Et aussi, parfois, on peut faire des trompe-l'œil avec les pâtes, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'apporter des crustacés ou bien des vongolets dans certains.
Oui, on les fait avec tous les pâtes. Donc, ça suffit d'avoir une bonne huile d'olive, de l'ail, du piment, et on fait des pâtes exquises.
Ouais. Et
mais
parfois,
même une boîte de tomates. Mais il faut qu'elle soit bonne.
Parfois, on joue avec quelques recettes astucieuses, intelligentes et un peu de faux-semblants. C'est ce que nous avait raconté la cuisinière italienne Alba Pezzon.
Je me rappelle très bien d'avoir déjeuné un jour sur un bateau de pêcheurs. Bien sûr, les pêcheurs, ils pêchent du poisson, mais le poisson est destiné à la vente. Mais j'ai mangé chez eux des pâtes pâtes, des spaghettis alle vongole fouillute, c'est-à-dire des pâtes au goût des palourdes qui venaient de s'enfuir. Quelle était l'astuce? Eh ben, tout simplement, les spaghettis avaient cuit dans une eau dans laquelle on avait glissé des galets pêché au fond de la mer. Et le galet avait le goût de la mer. Hein. Et pour moi, c'est ça. Voilà cette cuisine un peu du faux-semblant. Autre souvenir. Hein. Pourquoi faire cuire des pâtes dans l'eau? L'eau, c'est un liquide, mais pas de goût. Imaginez que vous ayez une botte de persil. Ça arrive souvent dans une cuisine italienne. Vous avez mangé les feuilles, fait un pistou, par exemple. Il vous reste les tiges. Vous avez épluché une gousse d'ail. Il vous reste les épluchures. Eh ben, les épluchures de l'ail et les queues de persil dans l'eau de cuisson des pâtes. Vos pâtes n'auront pas le même goût. La cucina povera, c'est ça.
Alors, oui. Laura.
Oui, tout à fait. On peut aromatiser les bouillons, enfin l'eau dans laquelle on cuit les pâtes avec tout ce qu'on veut. Hein. Les épluchures, bien sûr, hein. Les persils qui traînent toujours. Oui, c'est toutes des astuces de cucina povera, exactement, pour donner plus de goût à nos pâtes. C'est l'astuce du cuisinier, du bon sens, de ne rien jeter. C'est ça qui est intéressant. C'est l'amour, finalement, qu'on met pour faire la cuisine. Hein. C'est vraiment ça, c'est le contact avec la nature, ce qui est inspirant. Voilà, un simple pas des pâtes, ça devient, voilà, c'est une poésie. Donc, chacun peut mettre ce qu'il a envie de mettre. C'est ça qui est beau, hein. Avec rien, on crée quelque chose.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Come l'alba dentro i vicoli, mi sorprende il tuo calore. Fingo ancora di dormire, sai, mentre scivoli da me. La tua assenza ha molte vittime, io che non so più aspettare. Crollano chiese infallibili sulle spalle degli eroi. L'immagine di te, l'immagine che il desiderio non fa spegnere. L'immagine di te, l'immagine che il desiderio non fa spegnere. L'amore che fa impazzire l'idea svanisce nei giorni che non avrò mai. Io dove sarò, tu dove sarai?
L'immagine di te des Italiens, Radio Derwich sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez le Goût du Monde spécial pasta aujourd'hui avec notre complice Laura Zavan, cuisinière italienne, auteure de plusieurs livres, notamment My Little Italy, Venise, les recettes cultes. Nous l'avions reçue d'ailleurs au sujet de Venise, Balade gourmande en Italie également, des pastas dont le monde est fana et que l'on retrouve au petit déjeuner comme dans les festins du milieu de la nuit dans toutes les cuisines du monde. Je crois que c'est la deuxième fois que je le dis, c'est parce que je l'ai fait. Et que je trouve assez réconfortant de pouvoir partager un bon plat de pâtes à minuit passé, après avoir passé une soirée avec des amis, et voir le partager avec tout plein d'amis. Je crois donc, où que l'on soit, que ces pâtes, on les aime, mais pâtes de quoi? De quelle farine? Avec ou sans œufs? Avec ou sans semoule? Pâtes de légumes ou sans légumes?
Oui, ben alors les pâtes qu'on trouve en commerce, qu'elles soient artisanales ou pas, elles sont au blé dur. Depuis longtemps. C'est-à-dire avant, il y avait on pouvait mettre un pourcentage de blé tendre. Maintenant, c'est interdit.
D'accord.
Et à la maison, on peut les faire aussi au blé tendre. Et on met un pourcentage du blé dur. 30% par exemple de blé
alors,
dur.
Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Je prends de
c'est-à-dire
la farine,
qu'on prend de la farine, la T60 par exemple, T80. Et on met 30% de blé dur.
Donc
des
semoules de
blé dur. Ça donne, moi je trouve que ça donne beaucoup plus de corps aux pâtes. Elle tient mieux à la cuisson et je trouve que moi je les préfère finalement. Donc je mets toujours 30% de blé dur.
D'accord.
Donc à la maison on les fait comme ça, avec du blé tendre. Ensuite, après ça dépend des régions. On peut les faire avec d'autres farines, hein, des farines, je ne sais pas, il y a de la farine de châtaigne, par exemple, mais toujours la mélanger en 30%, pas plus, parce que sinon il n'y a pas de gluten dedans, donc elle tient moins bien. En Baltéline, il y a les pizzocri, donc il y a de la pâte avec la farine de sarrasin, mais en pourcentage toujours, parce qu'il n'y a pas de gluten. Donc,
Oui, c'est ça, il faut quand même une farine qui permette d'avoir un liant.
Oui, qui avoir un liant, exactement. Et les pâtes à l'œuf, c'est des pâtes du nord de l'Italie.
D'accord, oui, c'est ça.
C'est la Bologne, par exemple, c'est la patrie des tagliatelles, des tortellini et compagnie. Donc, c'est vraiment... Parce que les Nord, c'est une région plutôt aride. Donc, les pâtes, on les a mangées, les pâtes au blé dur, les spaghettis, on les a mangées quand il y a eu l'émigration italienne. Qui est
du sud vers le
du
nord.
Du sud vers le nord. Et donc, on a plutôt des pâtes qu'on faisait les dimanches, pour les festivités, des pâtes à l'œuf, c'est-à-dire un symbole aussi de richesse, parce que l'œuf, c'est aussi, voilà, c'est des pâtes plus riches. Et ce n'est pas dans la semaine qu'on mangeait ça, mais c'était plutôt voilà, les dimanches ou pendant des fêtes. Et les pâtes, donc les spaghettis et les pâtes au blé dur, c'est donc les sud, les centres-centres-sud de l'Italie. C'est là où ils se sont développés, donc on a parlé surtout de Naples, c'est vraiment les centres de production des meilleures pâtes.
D'accord, Naples.
Oui, oui Naples, les pâtes di Gragnano, di Torre Annunziata, c'est vraiment une indication géographique protégée.
Est-ce qu'on peut faire des pâtes avec des légumes, avec des épinards, avec...
Oui, bien sûr, oui.
Ça a un intérêt ou
c'est finalement, pas très répandu c'est sympa pour la couleur, parce que par exemple, pour les faire à l'encre des sèches. Après, au niveau des goûts, ils n'ont pas un goût extraordinaire, c'est mieux de les mettre en sauce, si on veut vraiment avoir du goût.
Mmh. Ouais. Et le goût de la pâte, sans rien? La pâte niveau...
Oui, alors les pâtes, quand ce sont des bonnes pâtes, je parle par exemple des pâtes qu'on peut acheter, quand on achète des pâtes artisanales, elles ont un goût, c'est bien même de les goûter sans rien, parce que déjà les parfums, on sent les parfums quand on les met dans à bouillir, à cuire, on sent ces parfums qui se dégagent. Et après, c'est bien de les goûter sans rien, juste pour sentir les goûts du blé. Et ça, vous avez ce réflexe-là avec des pâtes artisanales. Chose qu'on n'a pas avec des pâtes industrielles.
Non, bien sûr, parce que l'artisanal, justement, permet de conserver
c'est-à-dire,
ça.
C'est-à-dire que tous les nutriments sont conservés, les caractéristiques sont conservées. C'est-à-dire qu'on a un séchage lent, on a des ingrédients en blé de première qualité. Donc, le séchage lent, c'est hyper important parce que c'est surtout à basse température. En pensant que les pâtes industrielles, elles divisent par deux ou par trois les temps de séchage. Et aussi, les températures, elles les montent jusqu'à 80. Dans des pâtes artisanales, il faut qu'elles soient jusqu'à 40 degrés maximum. Donc, au-delà, tout va être... Enfin, c'est pas la même...
Oui,
c'est
bien
pas
sûr,
les mêmes pâtes.
Bien
voilà.
Sûr, on a de l'artisanal
après,
à l'industriel.
C'est pas, voilà, donc on a deux produits qui sont différents. Et c'est vrai aussi que les prix sont différents, bien sûr. Mais bon, voilà, moi, je préfère manger des bonnes pâtes une fois de temps en temps que des pâtes voilà, industrielles.
Oui, c'est toujours une question de choix. Si je fais mes pâtes chez moi, donc voilà, je suis bien, je suis avec ma petite semoule, avec ma farine, je fais sécher au soleil, donc j'en fais des pâtes artisanales
oui,
concrètement.
Oui.
À quoi on reconnaît et quel est l'intérêt? Parce qu'on peut remarquer sur certaines pâtes, sur certains spaghettis par exemple, qu'elles ne sont pas lisses mais rugueux.
Oui, oui, après ça c'est les trafils. Voilà, les critères pour reconnaître des bonnes pâtes, ça peut être la trafile en bronze, mais maintenant même les pâtes industrielles, elles ont la trafile en bronze. C'est-à-dire qu'elles sont extrudées par des trafils en bronze qui rendent les pâtes rugueuses. Donc, ça permet à la sauce d'accrocher mieux aux pâtes. Mmh. Donc, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout pour faire des bonnes pâtes. Donc, après, voilà.
Attention, là, on arrive dans le sujet un peu délicat. Parce que, à l'origine de notre spéciale pâte du jour, il y a aussi une petite remarque que vous m'avez faite un jour, Laura, en voyant les assiettes des pâtes des Français, que nous ne savions pas faire des pâtes. Pourquoi? Parce qu'elles manquaient visiblement de liant. Alors, je dois vous dire que pour un pays qui, quand même, se targue d'être un champion en matière de sauce, on était un peu vexés. Enfin, personnellement, je me suis un peu vexée, mais je ne me suis pas formalisée. Alors, quelle est cette histoire de liant et d'où est-ce que ça vient?
Non, je ne suis pas si catégorique parce que maintenant, les Français, ils savent aussi cuisiner les pâtes. Maintenant, depuis, ça fait 20 ans qu'on en parle des pâtes, donc j'imagine que depuis 20 ans, voilà, on va de plus en plus au resto, donc resto italien, donc on sait qu'est-ce que c'est des pâtes al dente, par exemple, voilà. Alors, il y a quelques critères que moi j'ai remarqué toujours quand je vais chez des amis français, c'est que la casserole n'est pas assez grande, il n'y a pas assez d'eau, Donc il faut une grande casserole, il faut beaucoup d'eau pour cuire les pâtes. Et c'est très facile la règle, parce qu'au début peut-être on peut mesurer, mais après on ne mesure plus. C'est toujours la règle de 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, que c'est environ une portion, et 10 grammes de sel. Après le sel, si on a une sauce très salée, on ne va pas mettre 10 grammes, mais bon, à peu près c'est ça. Donc d'accord, c'est facile à retenir. 1 litre, 100 grammes et 10 grammes pour le sel. Donc, déjà, la casserole. Il faut des grandes casseroles.
Des grandes casseroles.
Et beaucoup d'eau, pas remplie à moitié. Souvent, c'est moitié remplie à moitié. Moi, à chaque fois, je remets de l'eau. Après.
Beaucoup d'eau parce qu'on l'utilise, cette eau.
Oui, on l'utilise, bien sûr, parce qu'il y a de l'amidon des pâtes reste. Donc, on l'utilise pour de louche, comme ça, pour mettre dans la sauce à la fin, pour mélanger et pour continuer la cuisson des pâtes dans la sauce, comme ça elles s'imprègnent bien de la sauce. Oui. Et ensuite, il y a le sel, il faut les mettre quand l'eau bout, on met le sel, et c'est souvent du gros sel, enfin c'est souvent, moi je mets du gros sel, en Italie on met du gros sel, et c'est bien de prendre du sel gris qui a encore des minéraux dedans, et pas du sel fin,
qui a été raffiné,
qui pour moi n'a pas le même goût, pouvoir de sel, voilà. Déjà ça. Après, il faut la mélanger de temps en temps parce que sinon, voilà, elle colle forcément. Voilà. C'est-à-dire, bien que des bonnes pâtes, après, elles ne collent pas. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'huile d'olive, enfin, d'huile dans les pâtes parce que les pâtes, elles ne collent pas entre elles une fois qu'on les a mélangées au début. Mais de temps en temps, il faut les mélanger quand même. On ne part pas ailleurs faire autre chose. C'est-à-dire, il faut être là.
Elles ont besoin de présence.
Mais c'est oui, pas... un minimum.
Ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, elles ont besoin qu'on soit là.
Après, ensuite, on les égoutte. Alors moi, maintenant, je les égoutte avec une araignée.
Une louche, une sorte de louche percée. Trop percée, en grillage, voilà, on en a l'impression.
Grande, voilà, c'est grande. Et pour les spaghettis, je prends une pince. Donc, je ne les égoutte pas dans un égouttoir. Parce que, de toute façon, dans la sauce, je mets toujours un peu d'eau. Donc, même s'il y a un peu d'eau, ce n'est pas grave. Et donc, je termine, je les sors toujours une ou deux minutes avant ce qui est marqué sur les paquets, mais je ne regarde jamais, hein. Je goûte.
Parce que ça, c'était l'autre détail, moi, je n'ai pas besoin. Parce que
le détail, c'est qu'il faut goûter. Moi, je goûte un ou deux fois, si je ne suis pas sûre, même trois fois, si je suis distraite. Voilà, je goûte. Il faut goûter, parce que déjà, il faut vérifier les sels, s'il y a assez de sel, parce que des pâtes pas salées, ce n'est pas bon. Et voilà, et après je les égoutte, donc je continue à la cuisson dans la poêle. Il faut une grosse poêle pour continuer la cuisson. Et donc on ajoute un peu d'eau de cuisson. Et donc ça va créer, avec l'amidon qu'il y a dans l'eau, ça va créer vraiment un liant. Donc c'est pour ça qu'on n'ajoute pas des crèmes, on n'ajoute pas beaucoup
d'eau.
Mais
c'est pas la peine, en fait.
Ça aide à ajouter moins de graisse
possible. Est-ce que vous avez bien noté cet ingrédient indispensable à la réussite de bonnes pâtes? L'eau de cuisson des pâtes fait le liant.
Voilà, fait le liant. Après, voilà, après, on ajoute toujours un filet d'huile d'olive. Et surtout, on serre les pâtes, on n'attend pas, on les serre. Mais l'important, c'est de goûter, vraiment. Parce que les sels, si on change de casserole, par exemple, si on les fait pour soi ou pour deux, on est habitué, on sait combien de sel on met. Hein, parce que moi, je ne les pèse pas, on fait au pif. Mais quand on change et on n'a plus l'habitude, par exemple, pour 4 ou pour 6, ben, moi, je goûte à chaque fois. Si les sels est bon. Donc, parce que les pâtes, il faut qu'elles soient al dente. Ça, c'est comme
alors,
la
al dente,
forme.
Al dente,
c'est
voilà,
comme la c'est... forme et la texture déterminent des sensations différentes.
Bien. Alors, al dente, juste on fait un petit point.
C'est parce qu'elle doit être encore un peu ferme sous la dent.
D'accord.
Et surtout, elles sont plus digestes parce que c'est l'indice glycémique qui change. Si elles sont trop cuites, voilà.
Donc, on a de la mâche.
Oui, il faut de la mâche.
Avec
ouais,
de la mâche. Ouais. Et alors là, vous venez de dire, là, voilà quelque chose de fondamental. La forme et la texture
ouais, sont importantes. Sont déterminantes pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Ouais.
Bon, pour le plaisir du goût, évidemment. Ouais. Mais aussi pour le choix des sauces, éventuellement.
Oui, le choix des sauces aussi. Oui, bien
parce
sûr.
Que, par exemple, il y a des couples comme ça dans les pâtes qui sont inséparables.
Oui.
On va faire un quiz. Si je vous dis, tagliatelle.
Tagliatelle, ben voilà, avec le ragù alla bolognese.
Ah, ragù, c'est la
ragù. Non, dire ragù, hein,
si
non,
vous dites trofie.
Le trofie al pesto.
Al
voilà.
Pesto, si je vous dis orecchiette.
Orecchiette, cime di rapa.
Eh ben voilà, cime di rapa. On en fait encore
pousse
deux.
Pousse de navet. Ben.
On hésite, hein, oui. Les orecchiette qui sont vraiment ces pattes étonnantes.
Des formes de petites oreilles, des pouilles.
Des formes de petites oreilles qu'on forme sur le pouce.
Oui, sur le pouce, tout à fait.
J'invente pas, je vous ai vu le faire. Donc,
oui,
du coup, bucatini.
Les bucatini alla matriciana.
Eh voilà, une dernière pour la route. On essaye
ouais.
Dania, cavatelli.
Cavatelli, ma ça peut être les cozzes. Les cavatelli, ils n'ont pas vraiment une sauce particulière. Ah. Ça peut être des pouilles. Donc, dans les pouilles, on met de la sauce tomate avec les cacio ricotta, par exemple.
Et ben voilà, comme pomodoro,
pomodoro et ricotta. Et ricotta ouais. Ouais.
Donc, il y a des couples comme ça. Et est-ce que la pâte a été créée pour la sauce? Est-ce qu'on a affiné la taille de la pâte? Est-ce qu'on va choisir une pâte courte pour une sauce en particulier?
Oui, les Italiens, on est très sensibles à ça. C'est-à-dire, par exemple, un spaghetti aux fruits de mer, c'est un spaghetti avec les fruits de mer. Vous ne verrez jamais des penne aux fruits de mer. Mais
alors,
j'imagine
les penne,
que même,
à quelle forme déjà?
Les penne, c'est tubulaire, coupé en diagonale. Les fruits de mer, forcément, c'est avec des spaghettis.
Forcément.
Ou des linguines, c'est-à-dire des pâtes fines et longues. Donc, toutes les pâtes fines et longues vont avec des sauces assez légères. Et les pâtes aux fruits de mer, par exemple, elles vont être cuites dans le jus des coquillages. Comme ça, elles imbibent vraiment à mi-cuisson. On les peut mettre à mi-cuisson. Et comme ça, elles cuisent dans ces jus et elles vont absorber tous les goûts. Parce qu'après, au niveau des moules et des palourdes, voilà, il n'y a pas un kilo. Oui, avec les coques, c'est un kilo. Mais après, on en mange un petit peu. Vous voyez, donc c'est des sauces légères. Et toutes les sauces, en revanche, celles qui ont des sauces au ragoût, enfin avec des viandes, des sauces importantes, hein, c'est avec des pâtes plutôt courtes et grosses, c'est-à-dire tubulaires. Voilà. Plus fines sont, plus elles demandent des sauces légères, et plus grosses elles sont, et plus elles demandent, voilà.
Boire des farces.
Elles sont bien. Ben, les farces, c'est plutôt les conchiglioni, les lumaconi, c'est des grosses pâtes qu'on peut farcir.
D'accord.
Ouais. C'est ça qui est intéressant de voir. Comme la forme, c'est hyper important. Et alors, il y avait des grands chefs italiens, Gualtiero Marchesi, c'est les plus grands chefs italiens, qui, à un moment donné, il a créé un plat avec 4 types de pâtes différentes, dans la même assiette, assaisonnée comme on faisait au Moyen-Âge, c'est-à-dire beurre et parmesan, pour dire, voilà, on va avoir une sensation différente parce que la forme change. C'est un grand chef qui a fait ça, pour dire que les sensations n'est pas la même. Donc c'est ça que quand on me demande, mais pourquoi la sauce... Mais c'est-à-dire, après c'est la sensibilité de chacun, je pense, de dire... par exemple, on dit, moi je demande à ma fille ou à mon chéri, je demande, mais qu'est-ce que vous avez envie de manger des pâtes ce soir avec... Vous préférez des spaghettis, des penne? C'est à partir de, vraiment de l'envie du moment. Parce que les spaghettis, ça ne te donne pas la même sensation que des penne ou des paccheri. Moi j'aime les pâtes qui ont beaucoup de mâches. Et c'est pour ça que les Italiens, je crois, ils n'aiment pas les coquillettes. Hein. Du tout les coquillettes. Toutes les pâtes qui sont fines comme ça.
Mais est-ce vraiment des pâtes? Est-ce vraiment
qu'il
n'y
a pas des mâches? Surtout quand on fait des coquillettes gratin, mais c'est quoi? C'est une bouillie. Donc,
on essaye désespérément d'essayer vos timbales de macaroni, mais on ne sait pas faire. Que voulez-vous? On ne sait pas faire.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Hey, it's nobody's fault. We're getting on. Time keeps pushing on. To the end of the road.
Till it's over.
Nobody's Fault de Benny Sings et Tom Misch sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde, bien sûr, et ce n'est la faute de personne si nous coupons nos pâtes dans nos assiettes, ce qui est formellement
interdit, même aux enfants.
Sacrilège, nous dit donc Laura Zavan, qui m'a appris également l'astuce de la fourchette pour rattraper ma pâte, ma spaghetti, plutôt que de l'aspirer, autre sacrilège. Nous rattrapons délicatement la pâte qui pendouille, la spaghetti, pour la ramener à la bouche avec la fourchette, outil indispensable. Laura.
Fourchette. La fourchette, oui, en effet, c'est en Italie que se développe l'utilisation de la fourchette, parce qu'il faut manger des pâtes, donc il faut manger des spaghettis. Et pour rouler les spaghettis, il faut une fourchette. Parce que les macaronari dans la rue, oui, on les voyait avec les mains, mais ce n'est pas l'idéal, parce que les pâtes, elles glissent, elles sont bouillantes, parce qu'avec les fromages et les beurres ou compagnie, ou les sandou, parce qu'au début, il y avait du sandou. Hein. Voilà, ça glisse. Donc, c'est vraiment l'Italie qui prône à l'utilisation de la fourchette, elle développe ça. Mais ailleurs, elle est mal vue, parce qu'on disait que ça pouvait changer les goûts des aliments, et tout cela. Donc, c'est en Italie que ça développe. Ça se développe.
Cette fourchette. Mais pourtant, Toto, dans le film
Noblesse,
ne se fie pas à la fourchette.
Oui, là, c'est une scène incroyable. Donc, ça dénote.
Je vous propose de juste d'acheter une oreille, parce que nous l'avons.
Messo, scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti.
Eccoli.
Grazie tante.
Dans cette scène incroyable donc de ce film, Toto est un écrivain public. Là, ils sont autour d'une table en train de manger. Le propriétaire de l'appartement, je crois, arrive. Et ils se jettent tous dès que le propriétaire s'en va.
Ça va, oui.
Tous les convives se jettent sur ce plat de pâtes fumant.
Oui. Et avec les mains, ils le mettent. Et ils se le mettent dans la poche aussi.
Ils s'en mettent dans les poches.
C'est vraiment, oui.
De n'en perdre pas un fil de ces spaghettis. Alors donc, ça, c'était un film de 1954 de Mario Mattoli. Dans les couloirs de RFI, figurez-vous, Laura Zavan, j'ai croisé Baptiste l'autre jour, à qui j'ai dit, tu sais quoi, on va faire une émission spéciale pâtes. Il m'a dit, ah bon, super. Et là, il me confie sa passion pour les pâtes. Lui qui n'est pas italien, mais synonyme pour lui de moult délices.
Pour moi, les pâtes, c'est donné, c'est partagé. C'est cette magie de la simplicité qui est à la fois excessivement technique, qui est remplie d'histoire, de transmission. Quelque chose qu'on pense maîtriser, mais qu'on maîtrise difficilement. C'est cette magie du bon, de l'excellent, avec des ingrédients accessibles, simples, rempli de saisonnalité, de soleil, de régionalisme, et avec de la farine, des œufs, de l'eau, vous arrivez à faire un plat qui vous transporte et qui vous fait voyager et qui vous ramène à vous-même. Oui, les pâtes à la bolognaise de mon père sont le premier souvenir de pâtes que j'ai. Après, j'ai eu plus tard un voyage à Rome où je me suis décidé de ne manger que des pâtes à la carbonara. Tous les restaurants que je faisais, je ne prenais que ces pâtes-là pour pouvoir trouver les meilleures pâtes à la carbonara, selon moi. Et j'ai dû faire une dizaine de restaurants pendant une semaine, et je n'ai mangé que des pâtes à la carbonara. Mon challenge avant de mourir, c'est d'apprendre à faire les pâtes comme un vrai Italien.
C'est dit.
Ah ben, c'est bien dit, oui. C'est tout ça, oui.
Et cette carbonara dont parle Baptiste, c'est une des pâtes les plus connues au monde, je pense, la carbonara.
Oui, parce que quand elle est bien faite, elle est très bonne, en effet.
Et alors, qu'est-ce qui fait son succès? Et d'où est-ce qu'elle vient, cette pâte?
Ça vient de, je crois, les Américains, quand ils étaient en Italie, ils ont essayé de faire, avec
pendant
les bacon.
Oui, c'est ça, ils voulaient du fromage et du bacon au petit déjeuner.
Voilà. mais à Rome, elle a trouvé vraiment sa patrie de prédilection, parce qu'il y a les guanciale. Donc les guanciale, au début, c'était un peu l'évolution de la grigia, que c'est des pâtes, pâtes longues.
Guanciale, ça c'est, on est dans
la joue de porc.
D'accord.
Donc il y a la grigia d'abord, que c'est seulement pecorino et guanciale.
Donc les pâtes pecorino,
guanciale. Après ça devient la carbonara, et il y a la déclinaison avec la matriciana, parce qu'on a toujours le pecorino, le guanciale. Dans la matriciana, il y a la sauce tomate, et dans la carbonara, alla place della sauce tomate, on a l'œuf.
Et dans le cacio e pepe,
dans la même famille. C'était la première, je crois, le cacio e pepe, parce qu'il n'y a pas de guanciale, mais il y a juste des pâtes. Du pecorino.
Parfait quand on est berger.
Et c'est très difficile à réussir la cacio e pepe. Hein, parce
alors,
que c'est un liant. Ben oui, c'est faut fondre les pâtes une fois qu'elles sont cuites. Elles se fondent avec le pecorino, doit se fondre dans les pâtes. Mais s'il est trop chaud, il va faire des grumeaux. Et si c'est trop froid, ça ne se lie pas. Donc c'est tout dans ce jeu de température. Et donc il faut prendre la main pour le faire. Ce n'est pas évident.
D'accord. Oui. Vous nous apprendrez.
Ouais.
Cacio e pepe. Là, ça donne envie terriblement. Alors, pecorino, c'est le fromage des pâtes plus que le parmesan. C'était un peu une découverte en fait en travaillant sur cette émission.
Disons que le parmigiano, c'est un fromage du nord, c'est-à-dire ça part de Parme, donc d'Emilia-Romagne. Et le pecorino, c'est plutôt un fromage à partir de Rome. Donc, il fait tous les centres sud.
D'accord.
Donc les pâtes au sud sont assaisonnées plutôt avec du pecorino, mais même les parmesans ils rentrent aussi, hein, c'est pas. Et donc au nord c'est parmigiano.
D'accord. Et en Sardaigne.
En Sardaigne pecorino, parce que ce qu'on appelle pecorino romano, il est produit en Sardaigne.
Parmi les pâtes les plus extraordinaires que vous ayez mangées.
Mais on me demande souvent ça.
Alors je change de question.
Non, parce que ça change. C'est jamais une seule pâte.
Ah,
ça change
ma question.
Des où on est, des souvenirs. Si j'ai envie d'été, si je pense à l'hiver, en ces moments, voilà, il y a les souvenirs les plus proches. C'est une amie une italienne qui m'a fait un plat des pâtes avec juste des courgettes, mais des bonnes courgettes, et les a cuites, mixées après. Donc c'était une sauce qui enrobait. Et on sentait bien la courgette et avec un peu de fromage, c'était magnifique, un peu de bonne huile d'olive, c'est rien, c'est simple, vous voyez, mais et sinon voilà, j'étais en Sicile à Marzamé, mais j'ai mangé des pâtes aux sardines à les sardes et c'était magnifique, hein, en regardant la mer. Donc ça dépend du moment, on mange toujours des bonnes pâtes, sincèrement.
On ne peut pas envisager sa vie sans pâtes, en fait, à vous écouter.
Non, c'est très difficile. Oui, oui, c'est vraiment un plaisir. Et une des étymologies de macaroni, par exemple, c'est le nom qu'on a donné aux premières pâtes. Les macaroni, avant, c'était les pâtes en général. Ça vient du grec ancien. Et c'est une interprétation, hein. Il y en a différentes. Mais celle que j'ai aimée le plus, c'est ça, parce que ça veut dire que c'est bon, c'est un plaisir, c'est heureux. Donc voilà, je pense qu'un plat de pâtes rend heureux et voilà, c'est bon et en plus c'est accessible.
Alors ces pâtes, on se demande évidemment si déjà est-ce qu'il y a de nouvelles pâtes qui se créent, parce que je crois que toutes les régions ont un peu leurs pâtes, elles se créent, elles se réinventent et tout ça. Et est-ce qu'on a gardé un lexique ou un inventaire des différentes recettes de pâtes au fil des ans?
Oui, je crois que depuis le Moyen Âge, ont été recensés 1200 types de pâtes, hein, des formes différentes, et aujourd'hui, on est environ à 250 types de formes différentes. Donc c'est la cuisine italienne, c'est différente, c'est la variété. Chaque région a ses recettes, a ses formes, mais il y a cette unité parce qu'on parle de pâtes. Mais ça se décline de mille façons, mais finalement, on parle toujours de pâtes. Donc il y a cette unité italienne dans la différence et c'est ça qui fait la force de la cuisine italienne.
Comment vous transmettez, vous, la façon de faire des pâtes?
Bah déjà, à travers mes livres, par exemple, dans Balade gourmande, il y a pas mal de photos avec les papas. Dans Saveur, tous les mois, souvent, il y a des pâtes, donc on voit les papas
aussi.
Et
en famille.
Et après, en famille, bien sûr, des cours de cuisine à thème sur les pâtes. Tout le temps, je transmets tout le temps, parce que j'aime ça, donc c'est naturel. On peut dire que ça vient naturellement.
Vous connaissez les pastas granise?
Oui, oui, ça je regarde souvent parce que c'est trop sympa de voir les grand-mères faire les pâtes. Et je dois dire que je m'inspire pas mal parce que souvent, c'est les grand-mères qui détiennent ce savoir-faire. Donc, ça m'arrive d'aller sur YouTube et regarder comment on fait ces pâtes-là. Et ça m'était arrivé pour les oreillettes. Avant, j'étais allée dans les Pouilles. Après, j'ai vu les grand-mères, elles m'ont appris. Mais avant, j'avais regardé sur YouTube comment on faisait. Parce que ma belle-sœur qui a des Pouilles, elle ne savait pas faire. Et sa maman non plus. C'est vraiment les grand-mères. C'est un savoir-faire qui va se perdre. Mais heureusement qu'il y a YouTube.
Il y a ceci, je vous propose d'écouter. C'est une journaliste productrice britannique qui est allée rencontrer ses grand-mères. Je vous propose d'écouter.
Mi presento. Mi chiamo Giuliani Albertina. Ho già 97 anni e mi preparo a fare i tortellini anche quest'anno per Natale con la mia famiglia. Mamma, mi chiamo Gigina e oggi faccio il ragù della domenica, cioè gli gnocchi col ragù, per essere più precisi, oggi, va bene? La prima cosa bisogna fare è preparare le polpette con la carne macinata, tutti gli ingredienti che ci vogliono, ecco, prima un po' di pane ammollato nel vino.
Deux des grands-mères interrogées par oui. Vicky Benison, elle les suit, elle parcourt plusieurs, toute l'Italie oui. à la rencontre de ces grands-mères qui ont quand même 97, 98,
ah oui,
100
oui,
ans. Ce sont des mémoires vivantes, ces grands-mères.
Et grâce à elles, on peut encore manger des tortellini.
Elle parlait des gnocchi. Gnocchi, pâte ?
Gnocchi, ben les gnocchi, c'est des pommes de terre, il y a de la farine dedans, mais c'est un peu à part, je dirais. C'est la pomme de terre l'ingrédient principal. Mais ça reste un primo piatto. Et très bon. Parce que les gnocchi, on ne peut pas les acheter. Il faut les faire maison. Parce que ce qu'on achète, ils sont toujours trop durs. Enfin, ils ne sont pas bons, sincèrement. Donc, il faut les faire soi-même.
Donc, vous nous donneriez une recette, chère Laura.
Ah
voilà.
Oui, volontiers.
Bah, l'émission se termine déjà.
Ah, déjà.
Un ingrédient et un ustensile que vous nous auriez apporté, chère Laura.
Alors, j'ai amené une roulette pour découper les pâtes, les raviolis. Et j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle était de ma grand-mère. Et après, j'ai amené une moule pour faire les corzetti, qui sont des pâtes de Ligurie, où sont estampillés, il y a les blasons souvent des maisons importantes ou les maisons de... Là, j'ai, dans mon moule, j'ai une épi de blé.
C'est celle que vous avez apportée,
ouais,
là
ouais.
Donc, on prendra en photo. C'est vraiment ouais. comme des pièces de monnaie, en réalité,
oui,
on
oui,
dirait.
Oui, oui.
Et donc, si on veut être tranquille aussi, j'ai bien noté, hein. L'araignée pour pouvoir
l'araignée,
ses pâtes.
Oui, oui, oui.
Et également la cuillère ou la fourchette à pâte, aussi
oui,
la pince à pâte.
La pince, après la grande cuillère pour faire les. Après, on n'a pas dit qu'on ne mange pas les spaghettis avec la cuillère, mais
qu'en
les roulant avec sa fourchette. Et c'est mieux de ne pas inviter des gens qu'on ne connaît pas trop et faire des spaghettis, parce que ça peut être un peu gênant.
Pourquoi est-ce que ça peut être gênant?
Non, parce que si les gens ne savent pas comment les manger, ça peut être gênant pour eux. Et on se met dans l'embarras, voilà. Ouais. Ça m'est arrivé plein de fois.
D'accord.
Maintenant, je ne fais plus de spaghettis avec des gens que je ne connais pas.
Voilà. Le goût du monde se referme, merci. Grazie, grazie mille,
prego,
Laura,
prego.
De nous avoir emmenés dans les marmites de cette planète pasta. On ne vous quitte plus sur les réseaux sociaux. Votre site, laurazavane.com. Vous êtes sur Instagram également. Et on vous lit, vous l'avez dit, chaque mois dans le magazine Saveur, Venise, les recettes cultes. Vous avez participé également au livre de François-Régis Gaudry, On va déguster. Et vous, si vous nous racontiez, quelles pâtes vous inspirent, lesquelles vous cuisinez, des astuces pour les mêler à des produits de chez vous, des pâtes, imaginez, des pâtes saupoudrées de sambala, cette épice qui ressemble beaucoup dans le parfum et dans le goût au parmesan. Je donnerais fort à parier que c'est rudement bon. En faisant là, bien sûr, un clin d'œil au risotto de notre ami Youssouf Sorna. Racontez-nous en mots, en vidéo, sur les réseaux sociaux. Un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée après vous être abonné à l'émission. Cécile Bonissier a réalisé et mis en onde ce goût du monde. Merci à elle. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.
L'épopée des musiques noires.